Bonjour Christine.
Bonjour Yasmine.
Aujourd'hui, nous allons parler de prisons et pouvoir en Afrique. On a souvent l'image, quand on parle des prisons africaines, de conditions de vie lamentables, de surpopulation, mais aussi de l'enfermement politique, de prisonniers politiques. Est-ce que ce serait une spécificité de la prison africaine ?
Alors, pas vraiment, non. Tous les autoritarismes dans le monde entier enferment leurs opposants et les dissidents. Et il arrive même que les démocraties le fassent aussi. Pour rappel et resituer, le groupe d'information sur les prisons créé au début des années 70 par Michel Foucault et d'autres l'a été dans un contexte où, en fait, on emprisonnait, par exemple, des militants maoïstes. Donc, les démocraties aussi enferment des prisonniers politiques.
Pourquoi à ce moment-là, on a cette image qui persiste de l'enfermement politique en Afrique ?
Alors parce que l'enfermement politique a une certaine consistance historique, il faut le dire, des dictatures ont fait florès au lendemain des indépendances en Afrique, mais aussi parce que certaines figures ont symbolisé en fait le prisonnier politique. La plus célèbre d'entre elles est certainement la figure de Nelson Mandela, qui plus tard est devenu président de la République sud-africaine, mais qui a été enfermé pendant 27 ans. Et pendant son emprisonnement, en fait, son visage, son histoire ont été médiatisés à l'extérieur du continent et ont donc fabriqué une figure presque mythique du prisonnier politique en la personne de Mandela.
Et tu disais que cet enfermement politique a fait florès après les indépendances, mais est-ce qu'il y en a eu également avant ?
Alors oui, effectivement, les modes de répression en fait qu'ont utilisé, dont ont usé et abusé les régimes autoritaires dictatoriaux en Afrique post-indépendante ont été utilisés largement par les colonisateurs avant eux. On pourrait bien entendu remonter encore plus avant avec les souverains qui dans certains royaumes et empires enfermaient en fait leurs concurrents ou leurs rivaux potentiels, mais c'est vraiment la colonisation qui a entamé ce processus d'enfermer, de reléguer, de déporter tous les dissidents, les opposants, en fait tous ceux qui n'allaient pas dans le sens de la conquête coloniale ou de l'administration coloniale plus tard.
Donc il y a une sorte de continuum dans cet enfermement politique.
Oui, un continuum historique très net. Si j'ose dire, en fait, les régimes dictatoriaux postcoloniaux ont eu de vrais bons modèles avec les régimes coloniaux qui les ont précédés.
Et donc, est-ce qu'on a des exemples comme ça de ce recours à la prison par le colonisateur pour asseoir sa domination ?
Alors, très clairement, oui. Pendant la conquête coloniale, le nombre d'emprisonnements de chefs militaires, chefs de guerre africains qui luttent contre la pénétration coloniale armée sont très nombreux. Bon, un des exemples les plus emblématiques est celui de Samori Touré au 19e siècle en Afrique de l'Ouest, qui pendant des années a lutté militairement avec des armées assez importantes contre l'invasion française, qui finalement s'est fait capturer au bout de plusieurs années, a été déporté au Gabon sur une île prison d'ailleurs où beaucoup d'autres détenus politiques ont été et qui a fini sa vie là-bas, donc très loin de chez lui et sur une île en déporté politique.
Mais alors ce recours à l'enfermement politique, est-ce qu'il est propre au moment particulier de la guerre coloniale ?
Non, il est propre en fait à la colonisation, que ce soit la conquête, l'installation elle-même des administrations coloniales et plus tard des colonisations. Au moment de l'installation vraiment des États coloniaux, une fois qu'ils sont bien en place, que les administrations gèrent le pays, en fait, dès qu'un chef, un sous-chef ou la moindre personne jugée subversif fait un pas de côté ou a un discours qui peut mettre en cause en fait cette domination européenne, on l'incarcère, on le relègue. Alors il y a des exemples assez connus qui montrent que ce n'est pas seulement sur des discours politiques et nationalistes, mais par exemple Simon Kimbangu, qui est le père d'une église syncrétique qu'on appelle le kimbanguisme, encore en activité aujourd'hui, a été jugé pour sédition parce qu'en fait son discours était un discours de retour aux racines africaines, de lutte contre l'imposition de la domination blanche, et il a passé 30 ans et il est mort, lui aussi en détention. Les Belges, la colonisation belge, avait même dans les textes légaux une catégorie prisonnier politique pour en fait extraire les chefs et les sous-chefs du détenu commun, si j'ose dire, du bas peuple, donc pour ne pas créer trop d'émoi chez les indigènes, mais qui permettait en fait d'extraire de la colonisation et de la gouvernance coloniale tous ceux qui ne collaboraient pas très dans le sens en fait des administrations.
Donc pour éviter une contamination, j'imagine par conséquent que la période de la décolonisation a été une période d'enfermement politique importante.
Ah oui, beaucoup de leaders nationalistes et indépendantistes ont été mis en prison, si j'ose dire, presque presque tous sont passés à un moment ou à un autre par la case prison. Et d'une certaine manière, ironiquement, ça a aussi servi leur légitimité en tant que leader et leur héroïsation plus tard. Les exemples sont innombrables. On pourrait se... Bon, Habib Bourguiba en Tunisie, que tu connais bien, Kwame Nkrumah au Ghana, Patrice Lumumba au Congo, Jomo Kenyatta au Kenya, et j'en passe. Beaucoup de leaders sont passés par la prison avant de devenir finalement les chefs d'État ou les premiers ministres de leur pays indépendant.
Et là, on parle de figures presque héroïques, hein, des pères de l'indépendance, et se focaliser sur les individus, n'est-ce pas aussi un peu risquer d'oublier le mode de traitement des populations à cette période des luttes de décolonisation ?
Tout à fait, et ça a été vraiment très important, alors notamment dans les décolonisations qui se sont, disons, pas très bien passées pour les colonisateurs, avec des guerres d'indépendance, des guerres de libération. Alors là, on a eu affaire à des enfermements massifs. Je pense aux guerres d'indépendance de l'Algérie, du Cameroun, mais aussi par exemple au Kenya. Alors ce qui s'est passé au Kenya est assez spectaculaire. Des milliers de personnes ont été mises dans des camps d'internement qui n'étaient pas forcément des combattants armés de l'insurrection qu'on appelait l'insurrection Mao-Mao à l'époque et contre laquelle luttaient les Britanniques, mais qui pouvaient être simplement des populations jugées complices en fait. Et ces camps ont été vraiment massifs.
Oui, on parle même, certains chercheurs parlent d'un véritable goulag britannique en Afrique.
Oui, tout à fait. Alors, il faut aussi imaginer que ce ne sont pas des milliers de détenus qui sont enfermés dans des prisons, mais on les met en fait dans des camps construits ad hoc, vraiment à la va-vite, hein, parce que, si j'ose dire, on enferme à l'appel. Hein, il y a vraiment beaucoup de détenus. Donc, c'est des camps parfois installés dans des no man's land, entourés de barbelés, des tentes, des constructions sommaires. Ça pourrait presque faire penser à l'image de camps de réfugiés à l'heure actuelle. Très sommaire.
Et donc ces précédents historiques de la période coloniale, est-ce que c'est ça qui permettrait d'expliquer les très hauts niveaux de l'enfermement politique en Afrique ?
Alors certainement oui, parce qu'en fait le fait qu'il y ait eu ces habitudes de gestion des dissidences et des illégalismes par la violence, par le carcéral, les régimes postcoloniaux ont à leur tour utilisé la prison et la brutalité pour faire taire les dirigeants. Mais du point de vue africain, dans les régimes post-coloniaux, l'imposition des partis uniques, la personnalisation du pouvoir, les autoritarismes ont eux aussi aggravé cette situation.
Et donc à cette période post-coloniale, il y a un usage politique très important de la prison. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Alors si j'ose dire, la litanie des cas sordides et d'enfermement important des dissidents individuels ou massifs est tellement longue, surtout dans les années 70-80, que ça nous ferait parcourir trop de temps et trop de durée. Mais on peut citer deux exemples très emblématiques. Par exemple, en Guinée, à peu près tous les Guinéens se souviennent du camp Boiro, qui est la plus sinistre des prisons de l'époque de Sékou Touré, où des milliers d'opposants ou même de simples citoyens ont été enfermés, sont morts sous la torture ou dans ce qu'on appelait la diète noire, c'est-à-dire on arrêtait d'alimenter et de donner à boire aux détenus. Autre cas très, très symptomatique aussi de ce qui se passait en Afrique avec une personnalisation des détenus, c'est ce qu'on appelait la piscine au Tchad, où Hissène Habré, le dictateur dans les années 80, a enfermé en fait de manière assez individuelle des gens dans des cellules souterraines où pour beaucoup sont morts ou ont été torturés. Donc on a comme ça des cas emblématiques de ce qu'est la prison politique en Afrique.
Alors ce sont des cas emblématiques qui ont beaucoup frappé les imaginaires, mais comment savoir précisément ce qui se passait dans ces prisons ?
Eh bien parce qu'en fait les détenus politiques, ceux en tout cas qui ont eu la chance de sortir de prison ou ceux qui ont eu l'opportunité de faire sortir des écrits, ont parlé, ont témoigné sur leurs conditions de vie. Ce n'est pas le cas de tous les détenus, hein, les détenus de droit commun qui n'ont peut-être pas le niveau d'instruction ou l'alphabétisation qui pouvait servir à ça. Mais en fait l'expérience carcérale forme tout un pan en fait de littérature, à tel point qu'il y a même des anthologies en fait des récits carcéraux, et donc on a beaucoup, grâce aux détenus politiques, d'exemples et de témoignages, de récits sur l'expérience carcérale. Alors certains livres sont emblématiques. Tu connais Cristal de Gilbert Nakache, écrit sur des paquets de cigarettes, enfin des papiers de paquets de cigarettes. Kensaro Wiwa, qui était un grand poète et écrivain nigérian, juste avant sa pendaison publique, a réussi à faire sortir de prison un témoignage qui a ensuite été publié. Et si vous regardez sur l'écran qui est derrière, on voit des couvertures. Il y a eu beaucoup de récits, de témoignages publiés au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et des romans aussi sur le Mali, sur l'Égypte, qui traitent en fait de l'expérience carcérale.
Donc il y a vraiment toute une littérature de cette expérience de la prison politique. Et est-ce que de nos jours, la situation a changé ?
Oui et non, comme d'habitude, j'ai envie de nuancer. Alors non, parce qu'en fait, des régimes continuent à emprisonner beaucoup d'opposants sur des inculpations qui sont parfois un petit peu instrumentales, hein, la corruption, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, terrorisme parfois qui peut aussi servir à masquer finalement des emprisonnements politiques. Mais oui aussi, ça s'est amélioré d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que l'action des sociétés civiles, qui sont beaucoup plus développées qu'il y a une vingtaine d'années. Le droit a fait aussi s'est développé, s'est imposé. Les pressions médiatiques, nationales et internationales. Dans tous ces contextes où en fait il y a une demande de démocratie en Afrique, ben finalement le prisonnier politique, il est devenu moins facile à garder en prison plus longtemps. Il est plus médiatisé et donc c'est plus difficile pour les régimes politiques de garder soit des individus, soit des groupes d'individus longtemps en prison pour de seules raisons idéologiques ou politiques.
Merci Christine, et à bientôt pour poursuivre sur l'histoire des prisons en Afrique.
Merci.